Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Pasteur Richard, c'est un vieux routier, c'est pas que t'es vieux, mais t'as de la route, t'as du millage. Mon esprit rajeunit pour le ciel. T'as été avec nous autres dans différents moments de la vie de l'Église. Ça fait quelques années qu'on est ensemble, on a eu le privilège de travailler aussi ensemble à Montréal. Puis ce que j'aimais dans ce que j'ai entendu hier, c'est que c'était... Tu as déjà été le pasteur qui connaissait beaucoup, tu sais, tu connais encore, mais tu arrives avec une autre approche que juste donner comme des versets sur lesquels on peut mastiquer. Mais tu nous permets d'appliquer la vérité dans comment l'homme vit les choses. Hein. Puis ça, c'est précieux d'avoir un berger qui peut venir là, nous bénir régulièrement avec le cœur de Dieu et les Écritures. On voit que les images que tu utilises dans tu sais, comme hier, moi, l'image qui m'a frappé le plus, c'est celle du chant, tu sais. Puis, on a tous vu ça, tu sais, dans un film, là, tu sais, où ce que si vous avez écouté Jurassic Park, c'est les dinosaures, là, tu sais, les T-Rex qui s'en viennent dans le champ, puis là, tu vois juste les herbes bouger, tu sais. Puis tu sais que le prédateur est là, ça bouge, mais tu sais pas, tu sais, t'as fait tout ce qui est. Puis des fois, tu sais, comme chrétien, il faut être flexible. Il faut user de s'endurer les uns les autres, tu sais, d'avoir la flexibilité de l'amour inconditionnel. Puis des fois, il faut être un poteau dans le champ pour que celui qui court un peu partout, à mon avis, ping! Il se cogne sur le poteau, puis il dise, oups, là, je viens de rencontrer la vérité. Puis elle se négocie pas cette vérité-là. Hier, tu nous as donné, je pense que tout ce que tu nous as donné, ça avait pour but que notre Église soit bénie dans le futur, parce que ce qui peut être arrivé dans le passé peut arriver n'importe quand et peut arriver dans mon propre cœur. Il nous a parlé de l'importance d'avoir un bon cœur, puis de rechercher, de pas juste être un visiteur, de s'engager dans nos relations. Nous a enseigné aussi des choses très pratiques à faire, à des fois à prendre position pour bénir l'Église aussi. Fait que je ne vais pas prendre plus de temps, mais juste dire aussi au corps, imaginez ceux qui étaient là mercredi, ceux qui n'étaient pas, il y avait une voiture virée à l'envers, il y avait des belles de foin, il y avait des gens qui avaient acheté des bonbons, il y avait des gens costumés, il y avait des lumières, il y avait toutes sortes d'affaires ici. Il y avait du bois qui se coupait en arrière, puis qui se faisait brûler dans les tonneaux, puis tout ça. Je veux juste qu'on réalise que ce matin, on est rentré dans le parking puis que tout était replacé à sa place. Tu sais, des fois, on le voit pas pour dire non, mais merci à tous ceux qui se sont impliqués autant à monter ça qu'à démonter, à aller reporter les belles de foin chez les tirateurs. Tu sais, tout le travail qu'il y a en arrière là pour que ça soit fait. Je vous remercie tous et chacun pour l'implication que vous avez eue à l'enlever de cette année. Yes. On a eu un pamphlet cette année sur qui expliquait qu'une personne venait de mourir dans la voiture qui était en avant, puis qu'elle s'était retrouvée au ciel, puis que, dans le fond, la raison pourquoi elle était sauvée, là, on explique tout pourquoi elle était sauvée, c'est qu'elle a reçu un pamphlet le soir de l'Halloween, puis là, on la met dans le scénario, puis on explique l'Évangile dans le pamphlet. Bon, c'est un pamphlet j'ai mal fait imprimer, j'ai manqué des mots dedans, en tout cas, c'est pas grave, on commence quelque chose. Bon, on va commencer, merci. En tout cas, merci à tous et chacun. Alors, Pasteur Richard, à toi la parole.
Merci Jean-Sébastien. Merci à chacun d'entre vous pour votre accueil. Ça a été vraiment une journée bénissante hier, une journée encourageante de pouvoir partager ensemble comme ça, voir ces choses-là, des choses qui sont quand même très, très, très pratique, très près de vous, près de nous, près de chaque chrétien qui est dans une assemblée semaine après semaine, après année. On va vivre des choses et on veut pas les subir, mais on veut vraiment les vivre. Et donc on reprend c'est un peu la fin de la conférence. On garde le même thème, puis pour le bénéfice de ceux qui étaient pas là, on va comme ralentir l'autobus, faire rentrer, puis après ça on va repartir de plus belle. Donc il va peut-être avoir un petit 5 minutes là, 5-7 minutes, vous allez dire ah, ça je l'ai vu hier. Ouais, c'est pour que les gens viennent avec nous. Puis si vous dites ah, ça je l'ai pas vu hier, ben c'est que ben c'était dans la première partie ce qu'on va voir, ça fait que vous étiez toutes là, toutes oui. C'était pas après le repas. Je vais partir ça. Ouais. Excellent. La première des choses qu'on a faites hier, c'était de définir la cible, ce qu'on voulait atteindre. Parce que des fois, on veut des choses dans la vie chrétienne, puis c'est tellement flou. Il y a beaucoup de beaux principes. On veut l'amour fraternel. On veut la vérité. Que si on veut atteindre une cible, on a besoin de la préciser, de dire « est où et c'est quoi ». Et le thème de la conférence, c'était les relations fraternelles. Quand on est ensemble dans l'Église, qu'est-ce qu'on vit? Au fil des ans, quand on est dans une assemblée, qu'est-ce qu'on arrive à vivre? Et la parole de Dieu nous dit qu'on peut vivre des choses merveilleuses, que c'est presque le ciel sur terre, mais on y arrive pas toujours. Et avant de savoir où est-ce qu'on voulait aller, avant de prendre le chemin, il faut savoir c'est où. Donc, on a donné une description de la cible. Si on veut la décrire, si on veut la nommer, ça a l'air de quoi? Et dans cette cible-là, dans cette destination, il y avait qu'on a vu l'amour inconditionnel. Donc, on veut dans l'Église que le fait que Dieu nous aime, hein, quand on était encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous aime pas parce qu'on est beau, fin, mais il nous aime parce qu'il a décidé de nous aimer. Et ensuite, il dit, de la façon que je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Donc ça, c'est un aspect extrêmement important. En général, dans la vie, au travail, dans ta parenté, dans ton voisinage, fais pas trop d'erreurs parce que le monde va te regarder un peu de travers. Hein? Les humains, on est comme ça. L'amour inconditionnel, c'est pas humain naturellement, c'est plus divin. Donc, ça, c'est une des caractéristiques. On veut vivre aussi la grâce. Notre Dieu, c'est un rédempteur. Il permet qu'on soit dans le trouble pour nous sauver. Ça veut dire qu'il Il a su, hein, avec Adam et Ève, qu'elle est tombée pour les racheter. Et dans nos vies, on n'est pas dans une religion, une pratique de foi rigide de dire, hey, à ce temps que t'es chrétien, là, t'es mieux de plus jamais rien faire de mal, tu sais. Hey, imaginez la vie chrétienne avec un principe comme ça, lourd à porter, où on fait semblant qu'on a l'affaire ou qu'on agit bien avant même de dire, écoute, dans ce domaine-là, j'ai des besoins, puis je suis pas parfait, j'ai besoin de grandir. Donc, vive la grâce. Donnez la chance aux autres de faire des erreurs. Écoute, t'as été un peu dur, t'as été impatient, tu sais, je me suis fait un peu apostropher, ben regarde, ça m'arrive, puis j'ai de la grâce envers toi. T'as le droit de faire des erreurs, puis on peut se tromper, avoir des manquements. On veut aussi vivre l'amour de Jésus à travers les frères et sœurs. Ça veut dire que savoir qu'on compte les uns pour les autres, que les gens se soucient de moi, je me soucie d'eux. Je prends soin des gens les gens prennent soin de moi. Ça veut dire que je suis capable de les comprendre, je suis capable de les écouter, je suis capable de les aider. Donc, je donne de l'aide, j'en reçois. Et quand je donne de l'aide, les gens l'apprécient. Et quand les gens m'aident, hey, ça me fait du bien, je dis, donnez-moi-en encore. On veut aussi, en vivant les relations, une des caractéristiques, on veut être capable de s'ouvrir. On veut être en sécurité. On veut avoir, être en confiance. Qu'est-ce qui arrive si j'arrive auprès d'un frère, je dis, écoute, faut que je te parle, là, j'ai dit ça à personne, puis j'ai des luttes là dans certains domaines de ma vie, le péché est à ma porte, puis comment on va se sentir? Comment on va être reçu? Hey, écoute, un chrétien, ça fait pas ça, là, tu sais, t'es mieux de te remettre en règle tout de suite, parce que, non, on veut avoir confiance. On veut s'ouvrir. On veut aussi d'un amour que vous avez en Romains 12, 9 à 10, un amour vrai, sincère. Hein? La Bible nous dit de s'aimer d'un amour ardent. Aimez-vous ardemment de tout votre cœur, puis de s'aimer sans hypocrisie. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de se faire des beaux sourires, puis juste pour l'apparence que on a vraiment un souci. On dit, Seigneur, tu m'as placé dans une famille, puis les frères et sœurs que je côtoie, semaine après semaine, année après année, c'est ceux-là, puis je veux m'investir. C'est les gens que tu me donnes comme partenaires pour vivre l'Église, et je les aime, ces gens-là. J'ai appris à m'attacher, je sais ce qui se passe dans leur vie, et l'amour que j'ai, c'est envers eux, et cet amour-là est vrai, il est profond. Avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Se soucier. Comment je peux prendre soin d'eux? En Jean 13, 33, 34, on connaît, hein, c'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que les gens vont connaître que vous êtes mes disciples. » On a vu ça hier, qu'un vrai disciple a de vraies relations à l'image de Jésus pour nous. Et quand on a fait ça au début des deux rencontres hier, c'était pour donner une image, donner un portrait, donner une cible à atteindre. Quand on parle qu'on veut mettre l'accent sur les vraies relations, des relations bénissantes, ben ça ressemble à ça. Et comme je le disais hier, moi, quand je parle de ces choses-là, quand je vois ça, mon cœur, il dit, waouh, moi, j'ai soif pour ça. Et je crois que chacun d'entre nous, chaque chrétien au Québec, quand il va dans son église locale, c'est ça qu'il veut vivre. Puis oui, il y a l'évangélisation, ça demeure toujours au cœur du mandat. On travaille à l'œuvre de Dieu, puis on travaille avec zèle, puis il y a des choses que le Seigneur va le faire à travers nous, donc c'est pas juste de rester là passif, il y a des choses qui doivent être faites. Mais au milieu de tout ça, c'est quoi les relations qu'on a les uns avec les autres? Et ces choses-là n'arrivent pas toutes seules. Si on laisse aller les choses, puis on attend, normalement, c'est comme ton gazon. Hein? Si tu laisses aller, il va y avoir toutes sortes de mauvaises herbes, ça va pousser, puis il y a des actions à prendre pour avoir ce qu'on désire, ce qu'on souhaite. Un des passages qui décrit le mieux ces relations-là, et surtout le désir de l'apôtre Paul, où ça dépend toujours comment on lit, là. Si on lit le matin, il est 6 heures, ben on fait notre culte, on essaye de se réveiller un peu avec le café, on verra peut-être pas toute l'intensité, mais là, votre café est pris depuis longtemps, donc vous vous êtes tous présents, mais on lit ce que Paul écrivait à l'église de Philippe. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Dans le texte, il y a quatre occasions qui dit s'il y a, hein, si donc il y a, s'il y a quelque soulagement, s'il y a quelque union d'esprit. Donc, à quatre occasions, il prend cette affirmation-là, cette expression, et le sens de s'il y a, c'est que puisqu'il y en a, puisqu'il devrait en avoir, puisque Jésus, en créant son Église, son intention, c'était qu'on vive ces choses-là. Ben, Paul, pour ces cinq choses-là, il y a quatre s'il y a, mais il y a cinq choses qui sont mentionnées. Il dit, ben, ayez-le, vivez-le, cet idéal de relation que j'ai pour vous. Bien, hey, mon désir, c'est que vous le viviez. Si on les prend un par un, le premier, c'est de la consolation. Ça ressemble à nos objectifs qu'on a vus tantôt. Être compris, écouter, comprendre les sentiments de quelqu'un, d'en prendre soin. En la parole, dans le Nouveau Testament, ça dit que Dieu est le Père de la consolation. Et parce qu'on a été consolé par Dieu, c'est quoi le but de ça? Qu'on puisse consoler les autres, d'avoir de la consolation. S'il y a quelque soulagement dans l'amour, imaginez d'avoir une oreille qui nous écoute, d'avoir de l'encouragement, de la sympathie, du réconfort, de l'affection. Wow! Puisque s'il y en a, d'avoir de la compassion et de la miséricorde, se comprendre, se mettre à la place de l'autre et savoir que l'autre n'est pas indifférent à ce que tu vis, mais il se soucie vraiment de toi. Et après avoir dit « puisqu'il y en a, puisqu'il devrait en avoir », Paul dit « rendez ma joie parfaite. Hey, comblez-moi de bonheur. Faites-moi plaisir en l'accomplissant, en le faisant. Puisqu'en Jésus, il devrait avoir toutes ces belles et grandes relations, bien, rendez ça vrai, rendez ça vivant, en ayant. Et ensuite, le passage le dit, un même sentiment, un même amour, une même âme. Paul est en train de dire, vivez ces relations-là. Vivez ces émotions, ces sentiments quand vous êtes ensemble. Wow! Ça, c'est l'Église. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est trop idéaliste, puis on est encore pécheur, puis on vivra pas ça? Moi, je crois que c'est en croyant aux promesses de la parole de Dieu qu'on va pouvoir les voir s'accomplir parmi nous. C'est en voyant de dire, Seigneur, c'est peut-être loin, mais c'est le but, c'est la destination. Et moi, je veux être disposé à le vivre et je veux marcher dans cette direction-là. Pour vivre ce type de relation, Jésus veut premièrement faire un travail dans ma vie. Hein. On veut que tout le monde soit beau autour de nous, que tout le monde soit vertueux, mais on est un des membres d'Église. Et la première personne sur laquelle on a un contrôle, même si c'est pas facile, c'est nous. Donc, moi, mon engagement, pour vivre ces choses-là, il est où? Est-ce que je vais être une source de bénédiction? Est-ce que je suis capable d'avoir de la compassion? Est-ce que je veux m'intéresser un peu à l'autre, puis donner de moi-même qui va faire en sorte que la personne va être bénie, elle va apprendre, et un jour, c'est moi qui va recevoir, puis qui va être encouragé, qui va être soutenu. Pour vivre ça, il faut regarder la vie chrétienne sous un nouvel angle, peut-être, sous le bon angle, où la grâce remplace l'obligation, où l'amour remplace la peur, où la guérison du cœur permet de soulager et de faire disparaître la douleur. Et Paul décrit les relations qu'il souhaite dans l'Église un petit peu plus loin. On le voit, c'était un petit peu avant dans le texte, mais en Philippiens 1, verset 7, il parle des liens d'amour qu'il a avec les chrétiens de Philippe. Et Paul commence, hein, il exprime son amour envers les Philippiens. Il dit, « Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur. » Paul, il veut qu'il y ait de l'amour et il en a. Verset 8, « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Paul avait cet amour profond, cet amour sincère pour les frères. Il désirait que cet amour se vive les uns avec les autres, que cet amour grandisse. Est-ce que ça va au niveau du son? Oui, c'est bon. Quelle sorte de lien on entretient? Excellent. Oui, oui, vas-y. Hein? Y a-t-il un technicien dans la salle? Tout est beau, tout est réglé. Oui, oui, vas-y. Hey, merci. Jean-Sébastien, tu me sauves la vie. Depuis tantôt, là, peut-être ça vous dérangeait aussi. Donc, Paul avait cet amour profond. Mais est-ce que Paul vivait au ciel déjà? Est-ce que les Philippiens étaient tous des saints puis tout était beau? Paul avait aussi le genre de relation où les gens avaient des bonnes motivations, mais aussi des moins bonnes. Verset 16, il dit, « Il y en a certains, là, ceux avec qui là, mon cœur il connecte, ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, hein, il y a toujours les deux côtés, ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ pour des motifs qui ne sont pas purs avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. » Quelle sorte de lien on a dans nos églises chrétiennes? Quelle sorte de lien on a dans notre église locale où, pour nous, ça se passe? Il y a des belles et grandes choses, il y a des gens encourageants qui nous font du bien, et il y a d'autres relations qui, elles, sont plus décevantes et carrément blessantes. Et on veut diviser les liens ou les relations qu'on a en deux grandes catégories. Des liens qui sont des relations fondées sur la peur et des relations fondées sur l'amour. Et quand nos relations dans l'Église sont fondées sur la peur, un des buts, c'est d'éviter. On veut éviter la douleur. On veut éviter les sentiments négatifs. Donc, les liens de peur qu'on a les uns avec les autres, on est là pour éviter le rejet, éviter la crainte, éviter la souffrance. Je me souviens toujours quand j'étais à Saint-Bruno, puis à une certaine époque, quand j'étais en voiture et c'était seulement 5 minutes et je me dirigeais vers l'église et là, tu sais, tu roules, il n'y a pas de radio. Là, tu penses et je réalisais qu'en étant dans la voiture, quels étaient les sentiments que j'avais en m'en allant vers l'église? Des sentiments de peur. Je me disais, quand je vais voir tel chrétien, je sais qu'il sera pas content à cause de ce qui est arrivé. Quand je vais arriver à l'autre, avec l'autre, lui, il va me parler de ça. Et effectivement, c'était pas des peurs non fondées. Quand j'arrivais à l'église, dans le pasteur, il arrive une demi-heure, 40 minutes, fait que avant, donc là, les gens, ils prennent dans un coin, genre. Quelle sorte de relation on entretient? Quand on vit la peur, Dieu ne veut pas que ça demeure. On a besoin d'adresser les choses. Peut-être parler aux gens de comment on se sent, de dire, écoute, quand je suis dans ta présence, la façon que tu me parles, là, je ressens pas d'amour, je sens plus des attaques, je sens, je suis dans la peur à l'idée de parler avec toi. J'aimerais ça qu'on se parle, que c'est édifiant pour moi et pour toi. Donc, des relations fondées sur la peur. Mais il y a des relations fondées sur l'amour. Il y avait heureusement d'autres visages que quand je les voyais, hein, mon frère Alain, mon frère Clément, bien d'autres frères que quand je savais qu'on avait 5-10 minutes pour parler avec, là, hey, ça allait nous faire du bien. Et ça, c'est celles qui sont décrites et souhaitées dans Philippiens 2, 1 à 4. Ça, c'est des relations fondées sur l'amour. Et on détecte ces relations-là, on détecte ces gens-là, des 1000 à la ronde. Hein? On a un radar, on dit, hey, on est attiré, il y a un magnétisme de dire, quand je parle avec cette personne-là, ça me fait tellement du bien. On veut devenir ce genre de personne-là et c'est le genre de relation qu'on veut privilégier les uns avec les autres. Et ces liens-là nous poussent à vivre dans la vérité. On n'a pas à avoir peur. Dans l'intimité, on peut s'ouvrir. Dans la joie, on sent la gentillesse, le don sincère de qui on est, on peut le faire. Pour identifier la nature de nos relations, on a qu'à regarder ce qui nous motive dans notre service. Est-ce que je fais plein de choses parce que je sais qu'il y a des attentes et que si je le ferai pas, je vais me faire critiquer? La peur pour éviter quelque chose? Ou pour l'amour, pour vivre l'Église, de dire, wow, on va faire ça les deux, trois ensemble dans le comité, ça va être agréable, j'ai hâte, là, on va prendre des décisions. Des liens d'amour. Est-ce qu'on vient à l'église pour éviter que quelqu'un dise « Ouais, ça fait longtemps qu'on t'a vu » ou est-ce qu'on vient à l'église à dire « Wow, hey, j'ai une semaine là difficile, j'ai assez hâte de mon temps d'oasis où je vais avoir des gens qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes croyances, où Jésus, je vais donner, je vais recevoir, je vais être encouragé. Je me souviens quand j'étais... encore à la maison chez mes parents, j'allais à l'église toujours le mercredi soir, mais le mercredi soir spécialement en étant aux études à l'université, là, pour moi c'était comme un temps mort, un temps de repos. J'ai pas besoin de lutter contre tout ce qui m'attaquait là. C'était vraiment un oasis. Quand on a des liens d'amour, on fait les choses avec cette motivation là. 1 Jean 4, 18, un verset qu'on connaît bien, hein? Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. On a besoin d'être à l'écoute de notre cœur. Et si on a des sentiments de crainte en étant ensemble, on a besoin d'adresser ces choses-là. On a besoin de venir devant le Seigneur, de dire, Seigneur, pourquoi je me sens comme ça? Ah, peut-être c'est mon désir de plaire aux gens. Peut-être que quand quelqu'un me dit une remarque qui est correcte pour l'organisation, ça m'atteint. On a besoin de se comprendre, mais le Seigneur ne veut pas qu'on ait ce genre de relation-là. L'Église doit jouer son rôle de famille guérissante, aimante, où on est bien ensemble. On recherche l'amour, on recherche la joie. Et la joie de Paul envers ses enfants est vraiment frappant. Dans Philippiens, c'est l'épître de la joie. Hein? Connaissez-vous un verset dans Philippiens qui parle? Hein? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, et j'ai enlevé les versets, je voulais pas qu'on prenne trop de temps, mais la joie est là présente, et la joie est un sentiment qui ne ment pas. Soyons à l'écoute de notre cœur. L'Église est faite pour procurer de la joie. J'arrive, je rentre, puis je vois quelqu'un qui est content de me voir. Et le fait qu'il est content de me voir, ça me procure une joie, puis mon cœur répond par la joie de envers cette personne-là qui se soucie de moi, de dire « Hey, c'est bon de se voir, c'est bon de se rencontrer. » Donc, la joie devient quelque chose là qui est, c'est pas la grippe, mais quelque chose qui est contagieux, qu'on se donne les uns les autres. Et à un moment donné, quand on respire l'air de l'Église, là, on sent la joie. On dit ici, c'est un milieu où on se procure de la joie les uns les autres. Excusez-moi. Oui, c'est celle-là. Hier, on a passé toute une après-midi et je dirais une heure et demie et pas loin de deux heures à voir spécifiquement la situation des événements marquants, mais des événements qu'on peut vivre dans nos relations et dans l'Église locale, des événements marquants, mais marquants négativement, des événements blessants, des crises, des choses que on y pense 10 ans, 15 ans. Moi, 18 ans plus tard, je peux penser à Shawinigan dans les deux dernières années et tout de suite, je suis capable de me rappeler puis de ressentir les événements marquants puis blessants. Oui, j'ai pardonné, il y a eu de la réconciliation. À Saint-Bruno aussi, je peux penser à des événements marquants. Donc, chacun, on en vit. On a parlé aussi, en deuxième étape, avec les événements marquants, c'est lié à des personnes blessantes, des personnes dominantes, qui peuvent être agressives, qui font du tort. Et ça, dans l'Église, veut pas. On est encore sur la terre, on n'est pas au ciel. Ça va arriver. Et on avait vu le verset de Galates 5:15 qui dit, « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits par les autres. » Donc ici, ça parle de quoi? Hein, beau programme de mordre, de dévorer, puis d'être détruit. On va vivre ça. Et quand on s'attend à recevoir de l'eau, une eau fraîche qui va faire du bien à notre corps, quand on s'attend à avoir une accolade qui va nous encourager et qu'on boit de quelque chose qui est acide puis qu'on reçoit un coup en arrière de la tête à la place, on a besoin de faire face à ça. Et c'est là que le pardon entre en jeu. En Colossiens 3:13, ça donne un bon lien avec Galates 5:15. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous ici, c'est pas de s'édifier là, c'est de se tolérer puis quand il arrive des mauvaises choses, mais acceptez-le puis continuez ensemble. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. pardonnez-vous. Donc, il va y avoir des situations où ce qu'on veut vivre comme relation, on va être déçu. On va avoir sujet de dire, écoute, je pensais recevoir de l'amour, je pensais recevoir de l'encouragement, du soutien, et j'ai une plainte, je l'ai pas reçu, c'est pas ça que j'ai vécu. Les relations humaines, les relations fraternelles amènent leur lot de blessures, de déceptions, de meurtrissures, de frustrations. Et notre cœur, dans une église locale, par moment, va être mis à rude épreuve. On va être blessé. Et ça, ça peut produire des mauvais sentiments qui vont se déposer dans notre cœur. Et si on fait rien avec ça, avec le temps, il va y avoir une accumulation de déchets, hein, de méchanceté. Ça va être toxique et ça va rendre notre cœur amer et lourd. Pardonner est le moyen que le Seigneur nous a donné pour être libérés de cette méchanceté-là, de l'amertume. Pour pardonner, il faut reconnaître qu'on a été blessé, que quelque chose nous a atteint droit au cœur, ça fait mal. J'aime beaucoup cette définition du pardon. Pardonner, c'est ne pas retenir contre quelqu'un une offense qu'il a faite, ne pas mettre sur son compte une dette à cause d'une offense, décharger l'autre d'une offense commise contre nous. Le résultat est la libération de la douleur et la possibilité, c'est pas fait encore, d'une pleine réconciliation. Le mot pardon, ça, ce que ça veut dire dans son sens le plus proche de l'original, c'est libérer la dette. Un frère m'envoie une remarque désobligeante, blessante, je me sens humilié devant d'autres. Qu'est-ce que je fais dans mon petit livre intérieur? Qu'est-ce que j'écris? J'écris la dette qu'il y a contre moi. Il m'a blessé, il m'a fait souffrir en me disant ces paroles-là. Et là, dans mon petit livre, je garde ça. Puis quand je le vois pas, puis je le revois un mois plus tard, dans son dossier, lui, il y a ça que je retiens contre lui. Il a cette dette. Le pardon, c'est quoi? De dire oui, toi, tu m'as causé telle douleur, telle souffrance, j'estime ça à telle valeur, c'est gros comme ça. Ben Seigneur, à cause que tu m'as pardonné tellement, à cause de ton amour, puis parce que tu dis que pour mon bien, je dois pardonner parce que tu veux pas que je reste avec ça, bien, ce que tu me devais, je te le libère. Tu m'as emprunté mon marteau, puis t'as brisé mon marteau, puis tu l'as jeté aux poubelles, puis tu me dois dans mon livre la valeur d'un marteau. Ben la valeur d'un marteau, selon le marteau, c'est 20-25 piastres. Ben regarde, je t'enlève ta dette. Tu me dois rien. Non, ça arrive, pas de problème. Je retiens rien contre toi. C'est ça le pardon. Le pardon a le sens d'être gracieux, de remettre une dette, de donner librement. C'est vrai que tu peux retenir ça contre lui, ce serait simplement la justice. Mais je veux rien garder, je remets la dette. C'est un sens d'enlever plutôt que de retenir. On laisse aller, on lâche prise et on prend la décision. On a besoin d'avoir cette grâce pour pardonner. Hébreux 12:15 nous dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » La grâce de Dieu est large, mais c'est dans quel domaine? « À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » La grâce de Dieu, c'est la capacité du Seigneur pour nous convaincre par le Saint-Esprit, nous enseigner avec les Écritures et nous conduire au point où on va libérer l'autre et qu'on va se libérer nous-mêmes de la faute qui est là sur notre cœur dont on a été victime. Avant de vraiment pardonner, c'est tout à fait normal qu'il y ait un combat, qu'il y ait une lutte. Moi, j'ai, dans ma personnalité, c'est très rare que je vais pardonner en dedans de 5 secondes. C'est très rare que je vais pardonner en dedans d'une journée. C'est très rare que je vais pardonner en dedans d'une semaine. Ça me prend des années. Non, non, non. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de, après l'événement, j'ai besoin de venir devant le Seigneur. Le Seigneur, tu vois, je pense encore à ce qui est arrivé. Tu vois comment ça m'a troublé. Oui, Seigneur, ça m'a vraiment blessé, ça m'a déçu. Puis je pense que le Seigneur me donne et nous donne le droit de faire ça. Puis ensuite, on dit, Seigneur, je veux faire les choses comme il faut, je veux vraiment pardonner, je veux pas retenir ça contre ce frère, contre cette sœur. Et là, on prie, puis là, il arrive un moment, moi, ça se passe comme ça dans ma vie, un moment où, là, le Seigneur agit, puis là, il me donne le désir, puis au moment où, dans mon cœur, dans la prière, je décide de pardonner, je ressens de la joie, là. Il y a quelque chose qui se passe. C'est comme quand tu as vu ta femme, là, que tu savais pas, puis c'était elle, puis là, oh, il se passe de quoi, là, tu le sens, tu n'as pas besoin de l'expliquer, tu sais que, ah, c'est peut-être la femme de ma vie, Seigneur, je l'aime, mais quand vient le temps de pardonner, puis qu'on pardonne, vraiment, il se passe quelque chose dans notre cœur où on a une joie, on a une libération, le Saint-Esprit agit en nous, puis on dit, ah, merci Seigneur, parce que je sais maintenant, peut-être une semaine, 2 semaines, 1 mois plus tard, que là, j'ai vraiment pardonné. La grâce de Dieu pour nous aider à vivre réellement le pardon. Et quand on se prive de cette grâce-là, quand notre cœur s'endurcit, eh bien, l'amertume grandit. Le véritable pardon est un délice, une délivrance, une libération du cœur. Il peut être précédé de bien des luttes, bien des doutes, mais une fois qu'on l'expérimente, on ressent cette paix, cette joie. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'une fois qu'on pardonne, on peut retourner à notre objectif. C'est quoi notre objectif? C'est quoi la cible? De vivre des relations harmonieuses, bénissantes. Quand on retient une faute, quand on refuse de pardonner, on met ça sur pause et on n'en vivra pas. Et si on est blessé, si on est déçu, dans notre cœur, on ne voudra plus d'en vivre ces relations-là. On va venir à l'église en se protégeant, comme on faisait hier, là, en donnant la main, en gardant le bras tendu pour que les personnes ne s'approchent pas de nous, soient à une certaine distance. On ne vivra plus l'intimité, on ne fera plus confiance. On a besoin d'avoir cette attitude de grâce face au pardon. La grâce dit, écoute, c'est pas mon souhait, mais tu peux me blesser. Tu peux faire des fautes à mon égard. T'as pas juste une seule chance. T'entres en relation avec moi, puis oh, tu me blesses. T'avais un jeton avec moi, puis ton jeton, tu l'as utilisé. Toi, t'es barré, là. Je vais aller vers d'autres. Tu peux me blesser, même si j'aime pas ça. Il y a de la place pour le pardon. Et comment on peut en arriver à pardonner comme ça? Le cœur est touché par la miséricorde de Dieu. Pourquoi je pardonnerais? C'est quoi ma motivation? C'est quoi mon modèle? Le pardon de Dieu à mon égard est tellement grand Et quand j'en prends pleinement conscience, Dieu m'a tellement pardonné. Et il me demande de lui faire confiance. Il me demande de lui obéir. Il me demande de pardonner. Et je veux le faire. Hein. La parole de Dieu nous dit que l'apôtre Jean disait, « Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Hey, merci Seigneur, parce que toi, tu as eu de la grâce à mon égard. Merci parce que tu es encore patient. Merci parce que je bénéficie encore de ta bonté à mon égard, malgré tous mes manquements, malgré parce que des fois, je me détourne de toi, puis je viens dans une attitude de rébellion. Merci qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça, c'est moi, et ça, c'est chacun d'entre nous. Le pardon est au cœur de nos relations. Il nous permet de revivre d'autres relations dans l'Église. Il nous permet d'essayer puis d'espérer encore, de voir l'objectif puis de dire, Seigneur, quand je lis les passages comme Philippiens 2, 1 à 4, ça m'excite, ça me donne le goût, c'est ça que je veux vivre. Si on n'a plus de désir, si on n'a plus de relation, si on ne veut pas essayer encore, une des raisons probablement, c'est qu'on n'a pas pardonné. Des fois, on lutte pour pardonner, on prie plusieurs fois, ça revient. Pour moi, personnellement, un des signes que j'ai vraiment pardonné, c'est que quand je repense à l'événement, vraiment dans mon cœur, je ne ressens pas de douleur. Je vous ai parlé de ce qui est arrivé à Shawinigan le 16, 17, 18 ans. Et quand j'y repense toute seule, puis que je pense à des personnes, je peux vraiment dire dans mon cœur que je ne ressens aucune douleur et que quand je pense aux personnes qui ont été impliquées dans ça, je pense que individuellement, chacune de ces personnes-là, je leur veux du bien, puis je suis vraiment en paix. D'ailleurs, quand on se voit, on se prend dans les bras, puis on est précieux les uns pour les autres. Comment savoir qu'on a vraiment pardonné? Quand on y repense, le cœur est libre. Il n'y a plus de douleur, il n'y a plus cette souffrance. Et une fois que le pardon est fait dans notre cœur, la guérison du cœur se produit. Le cœur n'est plus lourd, le cœur est léger et on est capable de souhaiter des nouvelles relations. Hier, j'ai parlé de cette expression-là d'une dame quand je parlais d'une sœur, quand je parlais de toutes ces belles choses-là dont on a parlé, puis cette sœur m'avait dit, ouais, mais c'est utopique. Et moi, je lui avais dit, c'est pas utopique, c'est fantastique. Hein? Utopique, c'est des vœux pieux, des choses irréalisables, c'est des rêveries, voyons donc, c'est bien trop loin, c'est bien trop élevé, ça arrivera jamais. Moi, je pense que Dieu est vraiment intéressé, puis c'est son souhait, et il nous a pas mis ces belles choses-là en disant, vous les vivrez jamais, mais je vais vous donner soif. Son œuvre de salut est une œuvre de réconciliation. Il a voulu réconcilier l'homme avec lui-même. Et cette relation-là, restaurée avec Dieu, est la base de nos nouvelles relations, les uns envers les autres, au milieu, au sein même de nos assemblées. Il peut arriver toutes sortes de choses. On a le ministère de la réconciliation. Réconcilier ceux qui connaissent pas encore le Seigneur. Et ayant ce ministère-là, on est là pour être réconcilié, le pardon, rétablir les relations et progresser ensemble. C'est quoi la cible? C'est quoi la destination? c'est que l'Église locale soit un milieu propice à la croissance. Un milieu sécure où c'est possible de vivre les vraies, belles et bonnes et bénissantes relations que Jésus enseigne. Tout un défi. Toute une grâce. L'amour en action, l'unité de cœur. C'est important dans l'Église. L'amour fraternel, sincère, qui se manifeste par une belle communion, par une entraide, par un souci. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Des relations empreintes d'humilité. Notre Dieu nous invite à lui, puis il dit, venez à moi, n'ayez pas peur. Je suis doux et humble de cœur, lui le plus grand. Donc, les relations, quand on va se dire, viens avec moi, passons du temps ensemble, on va se faire du bien et on va être humbles les uns envers les autres. Il n'en tient qu'à nous qu'à de vivre ça. Et on va terminer, donc c'est un peu la fin du message, mais ça se prête tellement bien de prendre la table du Seigneur. Parce que la table du Seigneur nous amène au pardon. Dans Matthieu, vous pouvez tourner ou simplement écouter, Matthieu 26, verset, chapitre 26, verset 26, on a Jésus qui prend la table du Seigneur. Dernière fois qu'il prend la Pâque. Après ça, la Pâque va être...
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio et vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.